Bonsoir, comment allez-vous ? Vous écoutez Les Petits Bateaux, une émission de vulgarisation. Vulgarisation ne veut pas dire rendre vulgaire, mais rendre intelligible. C'est de l'accessibilité, comme une rampe pour grimper sans prendre les escaliers. Donc la vulgarisation, c'est rendre accessible à tous des sommets. Joli, non ? Je me souviens d'un collègue qui portait beau, des vêtements chics, il était charmant, surtout avec les gens un peu gradés socialement. Quand il recevait avec chaleur et raffinement, il mettait du vin sur la table et en mettait un autre, bien plus cher, à ses pieds, et s'en servait en douce des verres pour lui tout seul. Je m'interrogeais alors sur le mot « vulgaire ». La vulgarisation, ce n'est pas priver ou se cacher, mais au contraire, offrir. Merci à tous ceux qui viennent au Petit Bateau nous offrir leur savoir.
Bonjour, c'est Claire. J'aimerais savoir pourquoi parfois on a honte pour quelqu'un d'autre. Merci, au revoir.
Bonsoir Claire, et c'est moi qui te remercie parce que je crois que nous sommes très très nombreux à nous poser cette question, très nombreux d'ailleurs aussi à y chercher une réponse dans votre livre Boris Cyrulnik, « Mourir de dire la honte » édité chez Odile Jacob. Est-ce que vous pouvez répondre à Claire, pourquoi parfois on a honte pour quelqu'un d'autre ?
Alors je dirais à Claire que on n'a jamais honte des gens qu'on ne connaît pas ou qui sont très loin de nous. Si un martien fait des choses ridicules, j'aurais pas honte du martien. Si un chinois a des comportements qui me gênent, je serais pas gêné parce que c'est un chinois. Si quelqu'un que j'aime, si un proche a des comportements ridicules, j'aurais honte pour lui parce que c'est un proche. Donc la proximité affective fait que je peux avoir honte pour quelqu'un que j'aime et je voudrais qu'il, elle, soit parfaite de façon à ce que je n'ai jamais honte de lui ou d'elle. Alors ce sentiment-là prouve le lien affectif. La honte, c'est un sentiment qui prouve le lien affectif. Mais en même temps, c'est une pression de conformisme. C'est que je veux que il, elle, soit comme je le pense, de façon à ce que je n'ai jamais honte. Et c'est pas toujours facile. La honte, c'est l'arme du conformisme, et les autres sont pas toujours d'accord avec moi.
D'ailleurs, on a honte d'avoir honte. Honte d'avoir honte de ses parents, honte d'avoir honte de ses enfants.
Alors, il y a toujours un moment où on a honte de quelqu'un qu'on aime, et vers l'âge de 9 ou 10 ans, on a tous connu ce qu'on appelle le roman familial. C'est-à-dire que je suis une petite fille de 10, 11 ans, regardez comme je suis belle et intelligente, je peux quand même pas être la fille de ces deux-là, que certains que ça. Je suis sûrement la fille d'un prince, on s'est trompé à la maternité, on s'est trompé d'enfant, c'est pas possible que ce monsieur et cette dame soient mon père et ma mère. Et puis quand on vieillit, et qu'on finit par aimer nos parents comme ils sont, à ce moment-là, effectivement, on a honte d'avoir eu honte d'eux. On se dit, mais finalement, ils m'ont bien élevé quand même. Ils m'ont donné tout ce qu'ils ont pu. Ça, bien sûr, ça n'a pas été parfait. Ils ont commis leur part d'erreur comme moi, j'ai commis ma part d'erreur. Et je les aime quand même. Et à ce moment-là, j'ai honte d'avoir eu honte d'eux.
Voilà, les livres du neuropsychiatre Boris Cyrulnik, en dehors de celui que j'ai cité tout à l'heure, sont sur le site des Petits Bateaux. Et alors Grégory Vallon, qui est à la console ce soir, me dit cette chose intéressante. Quelquefois, on a honte quand on regarde une émission de télévision, alors que justement, là, on connaît rien ni personne, on n'a rien fait dans cette émission. C'est bien comme des martiens, et on a honte quand même.
Je m'appelle Raphaël, j'ai 5 ans et demi, puis je voudrais savoir si les martiens existent. Au revoir.
Bonsoir Raphaël, 5 ans et demi. Est-ce que les martiens existent ? François Forger, directeur de recherche au CNRS, vous vous occupez des planètes et Mars, c'est une ?
Planète, c'est même un peu ma spécialité.
C'est vrai, en plus. Alors Raphaël, tu as de la chance. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette interrogation ?
Alors les martiens, on aime bien en parler parce que il y a quelques dizaines d'années, on va dire à la fin du 19e siècle, au 20e siècle, les astronomes et puis les écrivains imaginaient que sur Mars, il y avait des vrais martiens, des êtres comme nous, une civilisation. Et puis il y a eu des romans comme La Guerre des Mondes qu'on imaginait, qu'on envoyait des soucoupes volantes sur la Terre pour envahir la Terre, etc. Et puis depuis, on s'est rendu compte que Mars n'était pas du tout comme ça. Mars est une planète très aride, très hostile. Et on l'a depuis exploré, notamment avec des robots, des sondes spatiales, et on s'est rendu compte que il n'y avait pas de martiens. Ce que l'on voit, c'est une planète très sèche, il n'y a pas d'eau liquide à la surface, et on se dit que c'est une planète morte. Pas tout à fait seulement. Il y a deux raisons pour lesquelles on se pose plein de questions quand même sur le fait qu'il pourrait quand même y avoir des martiens. Alors pas des martiens qui se promeneraient à quatre pattes ou à deux pattes, mais plutôt des bactéries, une forme de vie. La première raison, c'est que lorsqu'on a étudié la planète Mars, on s'est rendu compte que quand on regarde les terrains très anciens sur la planète, qui datent de la jeunesse de la planète, il y a 3-4 milliards d'années, on voit des traces de lacs et de rivières qu'on explore actuellement avec des petits robots à roulettes qui font des géologues. Et quand on fait cette exploration, on se rend compte que tous les éléments étaient réunis pour que la vie apparaisse. Parce qu'à la même époque, sur Terre, la vie est apparue. Donc pourquoi pas sur Mars ? Alors, pour l'instant, ce que l'on fait, c'est qu'on essaie de trouver des fossiles. Alors c'est très difficile, on trouve pas de petits coquillages, on va essayer de voir ce que l'on trouve. Donc c'est quelque sorte des martiens. Et on se pose même la question de savoir si la vie est apparue, peut-être que même si à la surface de Mars actuellement, les conditions sont très hostiles, il n'y a pas d'eau liquide, il fait très très sec, peut-être qu'en profondeur, à quelques milliers de mètres, il y a là des nappes d'eau liquide dans le sous-sol, et peut-être qu'il pourrait encore y avoir des bactéries qui ont survécu depuis cette époque favorable à la vie, et on aimerait bien aller voir. Alors pour l'instant c'est très difficile, il faudrait faire un forage très profond. On a une sonde spatiale qui est arrivée en 2016 qui va essayer de renifler, entre guillemets, c'est-à-dire de voir s'il n'y a pas certaines molécules chimiques qui sont émises par cette vie souterraine. Alors c'est pas vraiment des martiens comme pouvait l'imaginer Raphaël, mais ça serait quand même extraordinaire de trouver des microbes, donc des bactéries, qui seraient nées sur Mars et qui auraient vécu comme ça une vie indépendante.
Il fait à peu près quelle température, François Forget, à la surface de Mars ?
Sur Mars, en fait, pendant la journée, sous les trophiques, à la surface, il fait 20 degrés. Alors on se dit, bon, fait bon. Le problème, c'est que il fait extrêmement sec. Quand il fait 20 degrés, il peut pas du tout y avoir d'eau liquide. Et puis surtout, la nuit suivante, c'est un climat désertique, hyper désertique. Mars, c'est un grand désert. Eh bien, la nuit suivante, la température va tomber jusqu'à moins 80. Donc en moyenne, il fait toujours très, très, très froid.
D'accord.
Mais surtout, il fait très, très, très sec.
Merci à François Forget, nouveau venu au petit bateau. Vous avez remarqué, comme pour nous, eau liquide, c'est un pléonasme, et pour les scientifiques, pas du tout. Alors, ce soir au petit bateau, nous évoquerons la peur des oiseaux. Pas la peur que nous, humains, avons des oiseaux, comme dans le film d'Hitchcock, non. La peur que ressentent les oiseaux. Nous saurons si on peut vraiment se décrocher la mâchoire en bâillant. Et nous prendrons conscience du rôle très important qu'a joué la poste pendant la guerre de 14.
La silence, silence. La source, la source, seule aussi elle a ce O, elle souligne ce S-O-S-I-C-O, si elle a ce O, I, ce long, ce la source, si elle a l'eau, la source, le soli, laisse long, ce le O, si elle a source, si la source, elle a ce O, dans ce la source, la
L'assaut, c'était le dernier titre de Camille, tout frais, tout chaud.
Les petits bateaux sur France Inter.
Bonjour.
9 ans et demi et je voudrais savoir pourquoi les oiseaux ont peur de nous. Merci et au revoir.
Marie-Hélène Chiarisoli, vous êtes vétérinaire, vous connaissez particulièrement bien les oiseaux, vous êtes attachée au Muséum d'Histoire Naturelle. Elle a raison, Juliette, les oiseaux ont peur de nous ou c'est une impression ?
Ah ben non, les oiseaux ont peur de nous. Et Juliette se pose la bonne question. Pourquoi ils ont peur de nous ? Parce que ce sont des proies. Et les proies, elles sont condamnées à être mangées. Donc un oiseau, s'il n'est pas en sécurité, il est obligé de s'envoler.
Quel est le prédateur de l'oiseau ?
Ah ben, les autres oiseaux, les oiseaux de proie, les faucons, les éperviers, les aigles, les buses, tout ce qui est plus gros et qui vole plus vite.
Ah oui.
Et puis aussi les chats, tout un tas de prédateurs, ils sont tout le temps en éveil, les oiseaux. Ils sont obligés de se surveiller tout le temps.
Comme d'où l'expression comme un oiseau sur la branche.
Voilà.
Ouais, ça veut dire qu'on est intranquille. Ouais.
Absolument. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un oiseau n'est pas complètement idiot. On a une cervelle d'oiseau, mais moi je m'illite pour dire que c'est faux, parce que les oiseaux, et notamment certaines espèces comme les psittacidés, donc les perroquets, les corbeaux, les geais, tout ça, c'est des animaux extrêmement intelligents. Et qui ont un cerveau aussi développé dans l'intelligence que les grands singes.
Ah oui ?
Absolument. Comme ils ont la même capacité que les dauphins, les grands singes, les éléphants. Et donc les oiseaux, donc ces perroquets, ils sont tout le temps en danger de mort. Quand ils sont dans une cage, ils sont obligés d'être en éveil pour essayer de s'adapter à la vie en captivité. Donc c'est tout un travail que de se mettre à sa place pour comprendre d'abord qu'il a peur, parce qu'on oublie. On se dit, ah ben, il est dans sa cage, il n'a pas peur. Ben, si, il a tout le temps peur. Donc, il faut faire attention à ça.
Parce qu'il est programmé.
Il est programmé pour s'envoler à la moindre alerte. Et il ne peut pas s'envoler dans sa cage. Si on ne respecte pas son instinct de sécurité, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire attention à l'emplacement de la cage dans la pièce, il faut mettre une cachette dans la cage pour qu'il puisse se cacher. L'essentiel, le minimum, c'est de lui mettre une cachette pour qu'il puisse observer sans être vu, comme dans la nature.
Une cachette dans la cage, oui. Et c'est vrai qu'en plus, comme un perroquet, c'est très amusant. Les gens vont vers la cage et lui disent « Coco, gna, ça va ».
C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, parce que là, il se précipite sur la cage face à l'oiseau, c'est-à-dire prédateur, l'approche, le mode d'approche du prédateur, qui est face à face. L'oiseau, dans la nature, il est toujours côte à côte avec son congénère. Et ils se présentent en tendant le cou, en montrant leur corps, et jamais en face à face, sauf pour la reproduction ou le combat territorial. Donc quand un individu rentre dans une pièce où il y a un perroquet, il faut jamais se précipiter face à l'oiseau, parce que là, il est terrifié. Petit à petit, l'oiseau, il encaisse, et puis au bout d'un moment, tout d'un coup, on se dit « Ah, c'est bizarre, il mange plus, il vole plus, il ne chante plus, et il s'arrache les plumes ». C'est terrible. En fait, c'est le processus de mutilation de l'oiseau qui ne peut plus s'envoler. C'est une névrose de stress. Mais c'est vrai pour toutes les proies, les lapins dans leur cage, souvent on ne pense pas à mettre des cachettes. Les cochons d'Inde, on vous dit, mais ne mettez pas de cachette, sinon vous ne le verrez jamais, il va toujours dans sa cachette. Bah oui, mais bon, il a peur. Donc il faut faire un compromis. Alors après, on les met sous antidépresseurs, les pauvres, mais c'est dommage. On pourrait déjà leur mettre une cachette. Non, j'exagère, on ne met pas les cochons d'Inde sous antidépresseurs. Ouais.
Bon,
mais les oiseaux, oui.
C'est très intéressant ce que nous raconte Marie-Hélène Chiarisoli, qui est vétérinaire, mais ça vaut peut-être pour les humains entre eux le nombre de fois où on fait peur à un individu sans le savoir. Et cet individu, du coup, a un comportement déconcertant. On pourrait réfléchir, hein. Si quelqu'un en face de nous est fuyant ou au contraire agressif, peut-être que sans s'en rendre compte, on lui a fait peur. Je vous ennuie ?
Bonjour, voilà, je vous appelle pour savoir s'il était réellement possible de se décrocher la mâchoire en bâillant. Merci par avance.
Docteur Olivier Waluzinski, médecin, vous avez travaillé sur le bâillement. Alors, c'est une légende ou est-ce vrai ?
C'est une réalité, puisque c'est la cause la plus fréquente de la luxation mandibulaire ou luxation de la mâchoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le bâillement est un comportement extraordinaire, et je n'en connais pas d'autre comme ça, puisque c'est un comportement qui est physiologique, que nous avons tous depuis la naissance jusqu'à notre mort, et qu'en même temps, tout en étant physiologique, il peut déclencher des pathologies, comme la luxation de la mâchoire et d'autres. Dans d'autres circonstances, il va guérir des pathologies ou des gènes.
Ah bon ?
Par exemple, vous descendez un col en montagne, vous descendez en avion, vos oreilles se bouchent, c'est-à-dire qu'il y a la trompe de Stache entre le pharynx et l'oreille qui ne fonctionne plus. En bâillant, vous ouvrez votre trompe de Stache et vous retrouvez une audition correcte après votre bâillement. Et puis, c'est un comportement qui, comme tous les comportements, a sa pathologie. Le bâillement, il fait du bien à condition qu'il ne soit pas trop fréquent. Quand il survient par salve, c'est-à-dire 10, 15, 20 bâillements qui se suivent à quelques instants d'intervalle, il faut s'inquiéter. Peut-être qu'il y a une maladie derrière. Donc vous avez les trois circonstances, physiologiques, pathologiques, je déclenche des maladies et je guéris des maladies. Je ne connais pas d'autre comportement qui ait ces caractéristiques.
Et dites-moi, puisque vous êtes chercheur et médecin, quand on se décroche la mâchoire, qu'est-ce qu'on fait ?
C'est une luxation, vous déboîtez l'articulation de la mâchoire. Et ce n'est pas une articulation comme on croirait qui tourne, c'est une articulation où il y a un mouvement de translation puis de bascule, avec un cartilage qui est un ménisque, comme dans notre genou. Et c'est une articulation double, puisqu'on en a une à droite, une à gauche, qui fonctionne ensemble et qui subit des contraintes mécaniques extrêmement importantes, puisque les masséters nous permettent de broyer des choses dures, comme une noisette, et en même temps, on ouvre grandement la bouche. Donc, c'est des articulations qui subissent des contraintes très importantes. Et quand, par exemple, il y a des défauts dans l'articulation entre les dents du haut et les dents du bas, c'est un petit peu de travers, elles vont nous faire mal, voire se coincer.
Mais quand on se décroche la mâchoire, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, il y a une manœuvre qui s'appelle la manœuvre de Nélaton, bien que ce n'est pas lui qui l'ait mise au point, c'était un chirurgien du 19e siècle. Le médecin met un pouce droit, un pouce gauche sur les molaires inférieurs, dans la bouche de la patiente, et appuie fortement en reculant, et ça remet la mâchoire en place.
Vous l'avez fait déjà ?
Oui.
Vous dites la patiente, c'est plus souvent les femmes qui se décrochent ?
De mon expérience, oui.
Si je comprends bien, se remettre la mâchoire, c'est comme les chatouilles. Hein. Ça ne marche pas si on se le fait tout seul. Docteur Olivier Waluzinski, un site, vous trouverez son site sur le site des petits bateaux. C'était Myriam Makeba sur France Inter, où vous avez la bonne idée d'écouter les petits bateaux. Un des grands trucs des vacances, ce sont les cartes postales, comme nos chers poilus, sauf qu'eux n'étaient pas tout à fait en vacances.
Bonjour, je m'appelle Basile, j'ai 8 ans. Je voudrais bien savoir où est-ce que les soldats de la guerre de 14 trouvaient les cartes postales et les timbres. Il y avait des boutiques. Merci.
Bonsoir Basile, c'est nous qui te remercions pour ta question. Jean-Yves Le Naour, écrivain, historien, qui vient d'écrire 3 tomes sur la guerre de 14, édité chez Perrin, La Grande Illusion, 1914, 1915, 1916. Il a raison Basile, Jean-Yves Le Naour, où trouvait-il ces cartes?
Bonjour Basile, et c'est vrai que tu imagines sans doute que les soldats, eh bien, ils étaient en première ligne, toujours dans une tranchée, et donc ils ne pouvaient pas évidemment acheter de cartes postales, de stylos, de timbres, mais en fait ça ne se passait pas toujours comme ça. Ils restent en ligne quelques jours, 6 jours, 8 jours maximum. Et après, ils sont ramenés à l'arrière des lignes, dans les cantonnements, donc dans les villages de l'arrière des lignes, parfois à 10 kilomètres des lignes. Et donc, dans ces villages, ils peuvent acheter, effectivement, des cartes postales. Il y a des marchands, ils peuvent acheter du vin, ils peuvent acheter un petit peu du papier à lettres, tout ce dont ils ont besoin. Parfois, ils traversent des villes, peuvent acheter dans les gares. Et puis, on leur envoie aussi. Souvent, ils écrivent à leur famille, envoie-moi une paire de chaussettes, envoie-moi ceci, cela, tout ce qui leur manque. En revanche, ils n'achètent pas de timbres, puisque, étant soldats de la République, eh bien, leur courrier est pris en charge par l'armée. C'est la franchise postale, oui, oui. Et même quand on écrit à un soldat, franchise postale.
Ça a duré combien de temps, ça, Jean-Yves Le Naour ?
Eh ben, ça a duré pendant toute la guerre. Et le courrier, c'est un lien absolument vital et ça représente une masse énorme. Il faut imaginer que vous avez 8 millions d'hommes qui écrivent au moins une lettre par jour. Ils sont des parents, ils ont une épouse, ils ont des enfants, ils ont des oncles, des tantes, des grands-pères, etc. Et donc, ça représente mais des millions de lettres pour les cartes postales, puisqu'on parle des cartes postales, on évalue à 4-5 milliards les cartes postales qui ont été échangées de 14 à 18. Vous voyez, c'est une masse tout à fait considérable.
Est-ce qu'ils étaient payés, les soldats de la guerre de 14? Oui, quand même.
Oui, ils avaient une solde. Alors, c'était pas grand-chose, c'était du genre de 10 centimes, quelque chose comme ça.
Ouais.
Donc, ça suffisait pas toujours, effectivement, parce qu'à l'arrière, il y en a qui en profitent. Les mercantiles, quand vous revenez des tranchées, ben voilà, vous voulez boire votre chope, votre bouteille de pinard, etc. Et hop, ils vendent ça à des prix à 3 francs, la bouteille, 4 francs, la
des
bouteille.
Des opportunistes.
C'est ça, oui. Alors, heureusement, il y a les mères, il y a les épouses qui travaillent et qui envoient des mandats poste. Chaque jour, vers l'avant, il y a des dizaines de milliers de mandats poste qui sont expédiés pour les poilus. Voilà, 5 francs, 10 francs, 20 francs, 50 francs, afin qu'ils aient un peu d'argent de poche.
En fait, là, vous êtes en train de mettre un coup d'éclairage sur le rôle de la poste pendant la Première Guerre mondiale.
Ah, ça a été un rôle, mais alors absolument essentiel, parce que il faut savoir pourquoi on se bat. Et si on est tenu vraiment dans l'ignorance de ce qui se passe dans son foyer, on perd son moral. Ça a été un lien entre l'avant et l'arrière, entre la vie et la mort, en quelque sorte. Blaise Cendrars, qui disait, un grand écrivain qui avait fait la guerre de 14-18 dans la Légion, disait « le courrier, c'est aussi important que la soupe ». Et un autre grand écrivain, Barbus, qui a écrit « Le feu », prix Goncourt 1916, lui a répondu « non ». Le courrier était plus important que la soupe. On attendait le facteur, enfin avoir des nouvelles de son foyer. Et là, tout d'un coup, on n'est plus dans la guerre. Hein. Ah, il paraît que le petit a fait une dent, formidable. On est paysan, est-ce que t'as vendu la vache, t'es allé à la foire, est-ce que ça va bien les affaires, vous êtes en bonne santé, etc. Tout d'un coup, on est revenu à la ferme, on est revenu au bureau, on est revenu dans son foyer et on n'est plus en guerre. Et puis on a besoin de l'amour, vous savez, ces lettres d'amour, de dire qu'on s'aime, ben c'est important, ça permet de tenir, parce que on peut mourir demain, hein, on peut mourir tout à l'heure. Donc on vit un peu dans une forme d'urgence, et la lettre, c'est essentiel pour se dire qu'on s'aime.
Formidable et magnifique. Merci Jean-Yves Le Naour. Le dernier livre de Jean-Yves Le Naour, 1918 ou l'année de l'étrange histoire, est édité chez Perrin. Et puis profitons des vacances pour lire et relire le magnifique livre de Roland Dorgelès, Les Croix de Bois. Les petits bateaux rentrent au port jusqu'à la semaine prochaine. Et oui, nous ne sortons que le dimanche. C'était une rediffusion du 6 novembre 2016. Marjorie Devoucou, Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham, nous vous invitons à venir sur le site de l'émission ou à la podcaster.